L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'AJT du local de ce vendredi 16 avril, la dernière de la semaine avec Claire. Salut Claire.
Salut Marie, salut tout le monde en direct à Laval. Et oui, Château-Gontier, c'était intense, mais voilà, c'était
bientôt, ce sera bientôt surtout.
C'est ça, oui, je reviens très bientôt.
En attendant, évidemment, on va faire comme d'habitude en visio et tout se passe très bien. Et puis aujourd'hui, on va vous proposer deux petites idées de sortie pour ce week-end, parce qu'on le sait, avec le confinement, c'est pas évident. Et pourtant, on peut quand même profiter d'une promenade au musée Robert Tatin, notamment si vous habitez près de Cossé-le-Vivien. Évidemment, un musée accessible car il est tout en extérieur. Et donc justement, Claire a suivi une petite visite privilégiée avec le directeur du site, vous l'entendrez. Et puis une autre possibilité ce week-end, ça peut être par exemple de faire du vélo, toujours près de chez vous. Oui, mais c'est encore mieux avec des maillots cyclistes recyclés et recyclables. C'est le projet de deux frères mayennais qui ont lancé Vélor Cycling. On va découvrir justement ce projet dans l'interview. Et puis en fin d'émission, la chronique service civique qui est 100% mayennaise aujourd'hui, avec le bilan de leur mission par les deux volontaires engagés au Théâtre de Laval.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, le pic de l'épidémie est encore devant nous.
Selon le docteur Pierre Blaise de l'Agence Régionale de Santé, les taux d'incidence de la Covid-19 vont encore augmenter les prochains jours, le temps que les mesures de confinement fassent effet. En Mayenne, on compte 248 cas pour 100 000 habitants et 7,9% des tests sont positifs. La principale source de contamination reste le foyer familial. Près de 21 000 Mayennais ont reçu leurs deux injections du vaccin et 58 400 ont eu la première. Les autotests disponibles en pharmacie très bientôt seront gratuits pour les aides à domicile et une partie sera réservée pour les professionnels de l'éducation nationale.
Amélie de Montchalin revient en Mayenne ce vendredi.
6 mois après sa première visite, la ministre de la Transition et de la Fonction publique, de la Transformation et de la Fonction publique se déplace à nouveau en Mayenne dans le cadre du baromètre des résultats de l'action publique. Elle était ce matin à Laval où elle a rencontré des membres de l'association Citadelle et la déléguée départementale aux droits des femmes. La ministre s'est rendue ensuite à Ernée pour visiter l'espace France Service et échanger avec les agents avant un temps d'échange avec 6 Mayennais à la préfecture à Laval cet après-midi.
130 postes d'AESH toujours vacants en Mayenne.
Dénonce la Fédération de parents d'élèves, la FCPE 53. Près de 200 enfants en situation de handicap ne sont pas accompagnés individuellement pour leur scolarité. Et sans cet accompagnement, ce sont des familles, des élèves, des professeurs qui sont livrés à eux-mêmes, regrette le syndicat. Certains de ces enfants sont même empêchés d'aller à l'école. La FCPE 53 demande une entrevue à Denis Valex, le directeur de l'académie, pour, je cite, « obtenir des explications et dessiner des perspectives de progression ».
Un nouveau soutien pour le théâtre occupé à Laval.
Celui du collectif des festivals du 5-3, qui regroupe 21 festivals du département. Ils demandent eux aussi la réouverture des lieux culturels et la reprise des activités culturelles de pratique amateur, dès que la situation sanitaire le permettra. La prolongation de l'année blanche pour les intermittents est elle aussi primordiale pour la survie de notre secteur et donc de nos festivals, disent-ils dans un communiqué.
Le projet d'école des métiers de la métallurgie avance.
Metallic Valley a obtenu sa pré-labellisation cette semaine. Nous vous avions déjà parlé de cette école de production autour des métiers de la métallurgie. Elle sera installée dans le pays de Château-Gontier, une première dans le département. L'école accueillera sa première promotion en janvier 2022.
La piscine d'Evron rouvre à son tour.
Le bassin extérieur du jardin aquatique à Evron va ouvrir ses portes pour tous à partir de lundi, à l'occasion de la dernière semaine des vacances scolaires. 25 personnes pourront nager en même temps dans le bassin. La piscine sera ouverte du lundi au vendredi de 15h à 18h30 et le week-end de 9h à 12h30.
Nouveau bricovélo à Laval-de-Vin.
L'association Place au Vélo vous propose d'apprendre à réparer votre bicyclette lors d'un atelier organisé demain samedi. Ce sera de 10h à midi au 46 rue du Lieutenant à Laval, dans les locaux de Bicyclem. Attention, les places sont réservées. Sont limitées, du coup il faut réserver, c'est plus logique dans ce sens-là, au 06 02 09 25 06.
Le foot, Laval veut repartir du bon pied à 7.
Après un match difficile à encaisser lors de la dernière rencontre, un match nul difficile à encaisser lors de la dernière rencontre, le Stade Lavallois compte bien remonter la pente face à 7 lors de la rencontre prévue demain à 19h. Les Tangos n'auront pas vraiment le temps de souffler puisqu'ils se prépareront ensuite pour le match de mardi à l'autre bout de la France, direction Boulogne-sur-Mer.
Et à la une du Haut-Anjou, aujourd'hui le portrait de Sœur Agnès, otage en Haïti.
Sœur Agnès Bordereau qui était originaire de la Mayenne, de Peuton plus précisément, et elle fait partie des 7 religieux enlevés en Haïti dimanche dernier. Elle était en mission pour la communauté des Sœurs de la Providence de la Pommeraye en Maine-et-Loire, et elle vivait depuis 2 ans sur place. Un autre article rappelle que la religieuse a été déjà confrontée à de la violence alors qu'elle était au Guatemala. Des cambrioleurs lui avaient mis un pistolet sur la tempe et Sœur Agnès Bordereau avait déclaré ensuite, ça donne une idée un peu de sa force de caractère, « Je savais qu'il pouvait me tuer, mais je n'ai pas eu peur ». Un peu plus léger ensuite, à Château-Gontier, l'hebdomadaire nous permet d'ouvrir les portes d'une nouvelle boutique située avenue du Maréchal Joffre, Ride Eco. Amateur de skateboard, trottinette électrique ou paddle, vous y trouverez forcément votre bonheur. Les articles sont soit à louer, soit à vendre. Une nouvelle aventure pour le gérant Benoît Maignan qui a passé une 15aine d'années auparavant dans la mécanique moto. Et enfin pour les vacances de vos enfants, une activité sympa en plein air mais qui respecte aussi les consignes sanitaires. Les galets cachés à retrouver, une initiative lancée par le service jeunesse du Cocéen et Renazéen et participative hein, puisque vous êtes invité à décorer votre propre galet et à le cacher. Lorsqu'il est retrouvé, il sera caché à un autre endroit, etc., etc. Et pour voir comment participer, je vous invite à lire la page 15 de votre journal. Les musées sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre, vous le savez, mais ce week-end, vous pourrez profiter de belles promenades dans les parcs et jardins qui, eux, restent ouverts.
C'est ce que propose le musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien. Son directeur Bruno Godivier nous propose une balade tout en nous expliquant la vie de l'artiste pluridisciplinaire.
On commence à découvrir ce musée par cette allée des géants. Elle est bordée de 19 statues. Ce sont des statues qui représentent des personnages importants pour Robert Tatin, des personnages qui ont été formateurs pour sa personnalité. Ce sont aussi des artistes qui l'ont intéressé, qui l'ont inspiré dans la seconde partie du chemin. Cette allée, à l'origine, c'était un chemin communal. C'était juste le chemin qui menait à la petite maison dans laquelle il s'est installé en 1962. Et puis, c'est maintenant, ça fait vraiment partie du musée, de cette archisculpture. Et puis, l'ensemble est peint. Et c'est justement cette peinture, avec cette peinture qu'il retrouve cet aspect un petit peu granitique qui lui permet vraiment de se fondre un petit peu dans ce paysage mayennais campagnard. Alors on retrouve des artistes célèbres comme le douanier Rousseau, également né à Laval, et puis en face du douanier Rousseau, André Breton. André Breton, c'est un artiste surréaliste que Robert Tatin a rencontré, ils ont échangé quelques courriers également. Et puis on se rapproche petit à petit du cœur du musée, et là aussi on passe d'autres étapes avec des artistes comme Seurat ou comme Gauguin. Gauguin, c'est l'artiste voyageur, hein. Robert Tatin a beaucoup voyagé, il a notamment passé 5 années en Amérique du Sud, l'Amérique du Sud qui l'a également beaucoup inspiré dans son travail. Et puis des hommages à des femmes artistes avec Léonore Fini, également avec Auguste Rodin, c'est le nom que Robert Tatin lui a donné, mais on y découvre surtout une femme modelée par la main de l'artiste, et cette femme c'est bien sûr Camille Claudel. Ce sont des bas-reliefs pour lesquels Robert Tatin s'est inspiré de mythes fondateurs de grandes civilisations. Il a puisé dans les mythes, mais aussi dans les légendes, dans l'histoire, dans les philosophies, dans les religions. Il essaie de trouver des carrefours entre toutes les cultures, toutes les civilisations, de manière à ce que chacun puisse aussi retrouver sa personnalité ou sa propre culture. Et puis, il propose même une sorte de langage universel à travers la symbolique, qui est aussi très présente dans son œuvre. Obligé de passer devant pour entrer à l'intérieur. Et chez nous, c'est souvent l'image du mal, mais là, c'est aussi bien que le mal. Il est appuyé, vous voyez, sur la patte gauche, sur une sphère noire tachée de blanc, et puis de l'autre côté, sous la patte droite, d'un cube blanc taché de noir. En fait, il est en équilibre entre le bien, le mal, l'art, la science, etc. Et puis, on va se rapprocher de la maison dans laquelle Robert Tatin s'est installé en 1962. Donc quand il est arrivé ici, la maison était en assez mauvais état. Elle était inoccupée depuis quelques années. Lui a remis debout ce qui était nécessaire pour la rendre habitable. Il n'a pas non plus voulu changer sa forme originale. Elle est assez typique des maisons qu'on voit dans les environs, notamment avec cette pente de toit qui arrive assez bas. Et puis il est décédé dans cette maison en 1983. On aperçoit d'ailleurs sa pierre tombale. Et arrivé ici, en fait, il poursuivait en fait son travail d'artiste. Robert Tatin, c'est vraiment un artiste du XXe siècle. Au début, il a une formation assez académique. Il a fréquenté les Beaux-Arts, l'école des Beaux-Arts de Paris dans les années 20, également l'école des Arts Appliqués. Je pense qu'il y a aussi pour lui le choc de la Seconde Guerre mondiale. Il perd, comme certainement beaucoup, un petit peu ses illusions sur l'humanité. Il veut porter un message de paix, un message de paix universelle, d'amour. Et pour ça, eh bien, voilà, il choisit l'art pour s'exprimer. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment la pensée qui va déterminer l'image qu'il nous donne à découvrir aujourd'hui. Donc il a une idée, une pensée, il se dit, voilà, comment je peux l'exprimer au mieux? Tous les moyens sont bons, il a effectivement aussi dessiné des vêtements. Et puis, il cherche la meilleure façon de s'exprimer, d'exprimer sa pensée. Nous sommes maintenant dans le jardin des méditations. Alors c'était en fait un petit jardin qui était attenant à sa maison. Lorsqu'il est arrivé, c'était un ancien jardin potager. Lui en a fait ce jardin des méditations, c'est-à-dire un lieu né d'une méditation, mais aussi un lieu méditatif. Certains de nos visiteurs, effectivement, ils trouvent une certaine sérénité. D'autres sont simplement titillés. C'est leur curiosité qui les mène. Je crois qu'il faut aussi se laisser porter par ce type d'œuvre, hein, puisqu'on est à l'intérieur de l'œuvre. On est un petit peu dans le ventre du musée. Robert Tatin est très attaché au sens des signes, hein, au symbole. On retrouve par exemple régulièrement dans son œuvre un serpent qui se mord la queue. Alors c'est l'Ouroboros qu'on retrouve également en Grèce, également en Amérique du Sud. Et ce serpent qui se mord la queue, mais c'est évidemment l'idée du cycle du temps, du cycle de la vie, de l'éternité également, et puis de la reproduction de la vie, hein. Donc cette forme circulaire, elle est aussi souvent associée à la féminité dans l'œuvre de Robert Tatin. Alors Robert Tatin, effectivement, s'est beaucoup penché sur la symbolique des formes, mais aussi des couleurs, aussi bien que des chiffres, que des lettres. C'était vraiment un moyen pour lui de trouver des portes d'entrée là aussi pour chacun.
Et pour tout comprendre de Robert Tatin et pour préparer votre visite, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du musée, musée-robert-tatin.fr. Les extérieurs sont ouverts tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h.
Merci beaucoup Claire pour ce reportage en immersion sur place, on l'entend bien. Et puis peut-être que vous irez donc à ce musée en vélo, pourquoi pas? Et pourquoi pas avec des maillots cyclistes recyclés? Alors ce n'est pas encore possible, mais dans quelques mois sans doute, grâce à Vélor Cycling, on entendra justement les deux frères qui sont à l'origine de cette idée d'ici quelques minutes. Juste le temps d'écouter la chanson Syrups de Falls. Hearts de Falls sur l'autre radio. Vous écoutez toujours l'agité du local et on vous propose ce week-end par exemple ou autre de faire du vélo, oui, mais avec un maillot de cyclisme recyclé. C'est l'idée promue par Mickaël et Florian Jardin. Les deux frères originaires de Mayenne ont créé Vélor Cycling avec un prototype de maillot cycliste réalisé avec du plastique issu de bouteilles recyclées. Florian Jardin nous en dit plus.
Je m'appelle Florian. Je suis mayennais, je suis né donc à Mayenne il y a 32 ans, bientôt 33. Voilà, j'ai un frère, un grand frère avec qui on est parti sur ce projet-là. Donc je vais revenir après sur le projet, mais d'abord une présentation personnelle. J'ai vécu voilà à partir du lycée à Laval, parti en Angleterre à partir de 21 ans pour travailler pour un équipementier automobile où je suis resté 2 ans. Après, je suis parti en Chine, toujours pour cet équipement anti-automobile, où je suis resté 5 ans. Après, je suis revenu en Europe, et là, ça fait à peu près 3 ans que je vis aux Pays-Bas pour une entreprise qui s'appelle DSM. C'est une entreprise qui fabrique des matériaux qui sont utilisés dans l'automobile, dans l'électronique, etc., et qui a un fort accent sur la partie développement durable. Donc, la réduction de l'impact carbone, l'utilisation de matières recyclées, les matières bio, etc. Et c'est là-dessus que m'est venu le besoin et l'envie de me lancer dans un projet entrepreneurial. Donc,
Et alors, pourquoi justement les maillots de vélo? Parce que je comprends donc toute la dimension, en tout cas, développement durable. Mais pourquoi penser, qu'est-ce qui vous a fait penser à ce moment-là au maillot de cyclisme?
Mais en fait, tout a démarré avec une discussion qu'on a eue avec mon frère le 31 décembre. Et on se disait qu'on voulait vraiment faire quelque chose ensemble et vraiment axé sur le développement durable. Et lui, mon frère, c'est un cycliste, ça fait 25 ans qu'il fait du vélo. Moi, je fais pas de cyclisme, je fais beaucoup de sport, mais plus sur du running. Et voilà, en fait, on s'est mis d'accord, on voulait partir sur le cyclisme pour démarrer. Et en fait, c'est principalement pour tester l'idée, le concept, etc. Et puis voilà, on verra ce qui adviendra plus tard, si on veut se développer sur autre chose. Mais on s'est dit, voilà, on se fixe sur le vélo, on se fixe sur les maillots de vélo. Parce qu'en fait, là, on est vraiment parti sur maillot manche courte et manche longue. Et on verra par la suite si on a du succès lors de notre crowdfunding en juin, eh ben on étendra la gamme à toute la partie cycliste et peut-être d'ici quelques années, quelques mois, d'autres sports, peut-être running, on verra, je ne sais pas.
C'est vrai que là, on est vraiment au tout début du projet. Donc là, il y a en tout cas cette idée qui est née avec cette volonté. Et après, tout simplement, comment on fait?
En fait, c'est... Il y a deux articles que j'ai lus. Enfin, c'est même pas des articles. Il y a un article et un rapport du gouvernement que j'ai lu fin d'année dernière qui m'ont vraiment choqué. Le premier, c'est les émissions de CO2 en moyenne par personne en France, qui sont de à peu près 11,2 tonnes. Je pourrais vous envoyer les sources après. En fait, on devrait être à 1,6 ou 2,8 tonnes par an, par habitant en France, pour être en ligne avec la COP21, en fait, les accords de Paris qui ont été signés en 2015. On doit diviser par 6 pour atteindre un réchauffement climatique de 2 degrés. Et en même temps, en fait, y a un autre article qui a été écrit par Circular Economy qui explique que 92% des ressources que l'on extrait de la Terre chaque année, et ben, en fait, elles ne sont pas réutilisées. Donc, en fait, on est sur une... sur un système linéaire, alors qu'on devrait être sur un système circulaire, parce que toutes ces matières aujourd'hui, elles sont incinérées ou elles sont enfouies, etc., alors que c'est des ressources qui ont beaucoup de valeur et qui devraient être réintégrées dans l'économie. Donc ces deux choses-là nous ont vraiment poussé à se dire, franchement, faut aussi que la partie business, la partie entreprise fasse quelque chose, quoi. Et on pense que des initiatives comme les nôtres, si on a de plus en plus, ça va donner plus de valeur à ce qui est aujourd'hui considéré comme un déchet. Et après, il y aura des systèmes de collection qui vont se mettre en place, des systèmes de ressources, de recyclage, etc. Donc, c'est vraiment partie de ce besoin de se dire, ouais, il y a vraiment quelque chose à faire. Le cyclisme, on l'a évoqué tout à l'heure, mais aussi le cyclisme, c'est en plein boom, en fait, en ce moment. Avec la crise du Covid, les gens se mettent de plus en plus au vélo. Et en fait, aujourd'hui, la plupart des maillots qui sont disponibles sur le marché, sont fabriqués. C'est des dérivés du pétrole, en fait, aujourd'hui. Et on se dit, voilà, c'est quelque chose... Le cyclisme en lui-même, c'est quelque chose d'écologique, en fait. Parce qu'un kilomètre en vélo, tu peux gagner 2,5 kilos de CO2 par rapport à la voiture. Et en fait, nous, l'idée, c'est vraiment de pousser le truc plus loin. Enfin, ouais, c'est très bien de faire du vélo, mais regardons à ce qu'on achète aussi. Si on achète vraiment des habits qui sont... aussi écologique, et ben voilà, on pousse le système un peu plus loin, et puis on peut faire en achetant des vêtements écologiques, bah aussi faire avoir un bon impact sur la planète. Alors comment on fait? En fait, ça part de tout ça. Ça part d'une envie et après ça part d'une organisation. Après, l'idée en elle-même, elle est importante, mais en fait, c'est l'exécution qui va être hyper importante. Donc, c'est des mises en place de réunions bi-hebdomadaires avec mon frère, un autre associé qu'on a ici aux Pays-Bas. Et puis, on va se mettre des actions et puis on va les suivre, etc. pour enfin arriver au bout de 3 mois, avoir un premier échantillon. On va faire une vidéo dans 2 semaines. On va lancer le crowdfunding en juin. Donc, on va hyper vite parce qu'on a la volonté de le faire et parce qu'on a la bonne organisation.
Mais l'idée, en tout cas, c'est que ce maillot cycliste, il soit fabriqué avec du plastique issu de bouteilles en plastique, donc recyclées en tout cas.
C'est ça. À 95%, ça va être des matières PET recyclées, donc issues de bouteilles. Donc ça permet aussi de... En fait, la matière en elle-même a permis de gagner 50% en termes d'impact carbone par rapport à un maillot qui est un dérivé du pétrole, en fait. Donc ça, c'est un premier point hyper important. Le deuxième point, c'est qu'on a designé aussi les maillots de telle façon à qu'on puisse les réutiliser quand ils seront en fin de vie. Donc, d'ici 2-3 ans, la personne qui en aura marre de son maillot ou le maillot il sera cassé, il peut nous les renvoyer. Et nous, on est en discussion avec des partenaires potentiels pour pouvoir les réinjecter en fait dans un système de recyclage et pouvoir récupérer les fibres pour pouvoir faire des maillots par la suite. C'est pour ça qu'en fait, nos maillots sont à 95% faits de matière recyclée, le PET. Les 5 derniers pourcents, c'est qu'on a voulu garder une part technique aussi. Parce que l'écologie, je pense aussi, c'est acheter des maillots de qualité. Parce que si tu en achètes 3 fois plus, mais qui sont écologiques, finalement, ça sert à rien, quoi. Donc, on a essayé de trouver la bonne balance. On est parti sur ce design-là. Donc, matière recyclée, PET recyclé, issue de bouteille. Design pour circularité, pour sortir justement de ce que j'évoquais tout à l'heure du système linéaire et vraiment rentrer sur le système circulaire.
Donc oui, en fait, finalement, les 5% qui restent, c'est des toutes petites parties du maillot où c'est compliqué de faire autrement pour l'instant, c'est ça?
On pourrait faire autrement, mais le maillot ne serait pas aussi agréable à porter, en fait. Donc on veut aussi atteindre ce niveau de performance où la personne qu'on apporte le maillot, elle se sent bien dedans et elle puisse... et elle a envie de le reporter le plus possible, quoi. Donc... C'est au niveau des manches, c'est pour avoir une adhésion plus proche du corps. Et au final, si cette matière-là ne peut pas être recyclée, on trouvera une manière pour couper les manches, enfin couper la petite partie qui dérange. Quand on parle avec les professionnels de ce secteur-là, ils nous disent qu'il faudrait être à 80-90% avec la même matière, donc on est bien au-dessus pour pouvoir la recycler. Donc on pense avoir fait le boulot comme il faut.
Vous parlez justement d'échanges avec les professionnels. Est-ce que ça a été nécessaire justement pour arriver à ce prototype et ce produit final?
Ouais, parce qu'en fait, on est trois dans ce projet-là. On a des profils assez complémentaires. Néanmoins, il nous manque aussi des compétences. Et certaines compétences, il faut aller les chercher là où elles sont. Et principalement, c'est au niveau du recyclage parce que c'est des choses assez techniques, des choses qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Donc, on prend l'information là où elle est. Donc, on a discuté avec deux entreprises principalement en leur disant, voilà, aujourd'hui, vous avez des systèmes pour recycler le textile, mais c'est des systèmes qui n'ont pas été développés à un stade, on va dire, assez important, en fait, pour... c'est juste au niveau laboratoire aujourd'hui. Ils ont prouvé que les technologies marchaient, mais leur objectif, d'ici 3-4 ans, c'est de rentrer dans une usine et de pouvoir recycler des tonnes et des tonnes de textile. Parce qu'aujourd'hui, c'est des matières qui n'est pas vraiment recyclable. Et on leur a dit, ouais, écoutez, nous, dans 3-4 ans, on prend le pari. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour pouvoir, dans 3-4 ans, venir avec notre maillot dans votre usine? Et le point principal, c'était de dire qu'il faut 90-95% la même matière. Il faut être au plus proche des 100%, en fait. Et donc, c'est vraiment le point principal. Et c'est pour ça qu'aussi, nos zippers, en fait, ils sont faits en PET recyclé aussi. C'est la même matière que les maillots. Donc, on a vraiment poussé le truc au maximum pour atteindre ce niveau-là.
Et donc là, du coup, ces maillots cyclistes, ils sont prêts, ils vont être testés, on en est où dans le projet?
Ils vont être, là, ils sont en cours de production, donc en fait, on est en train d'en faire une quinzaine qui vont être testés pour une quinzaine de personnes, dont 3 anciens cyclistes pros, pour être sûr qu'on a le bon produit quand on va aller en pré-vente pendant le crowdfunding. On ne veut pas arriver au crowdfunding avec un produit qui est mi-fait, mi-à-faire. On veut vraiment s'assurer. La sustainability, l'écologie, c'est vraiment le centre du projet, mais on veut un produit top. Donc aujourd'hui, on est en train de le faire tester pour s'assurer qu'on a le produit parfait. Et ça sera fait dans les deux prochaines semaines. On fait une vidéo le 28 avril, en fait, qui va nous permettre de sensibiliser un maximum de gens à notre projet et les permettre d'adhérer. Et cette vidéo va être utilisée sur tous nos réseaux, en fait, pour pouvoir faire de la pub autour de notre projet et inviter les gens à investir dans notre projet et ça sera courant juin.
Parce que l'idée, voilà, c'est ça, c'est qu'en juin, on pourra précommander son maillot ou ses maillots.
C'est ça, exactement. Donc, il y aura un maillot manche courte, maillot manche longue, en plusieurs couleurs, en plusieurs fits. Donc, il y a le fit race fit, ils appellent ça. Donc, c'est le maillot vraiment pour le coureur les plus aguerris. Et il y a le fit, on va dire, régulier, si on fait un peu moins de vélo. Plusieurs couleurs, plusieurs fits. Et aussi, on aura la possibilité de pré-acheter les maillots, mais aussi la possibilité d'investir dans le projet. Si on n'est pas cycliste, moi, j'ai plein de gens dans mon entourage qui adorent le projet, qui veulent investir, mais qui ne font pas forcément de vélo. Donc, on proposera forcément cette solution aussi.
C'est vrai qu'on peut se demander, par contre, à quel prix seront ces maillots cyclistes, puisqu'on imagine que tout ce processus-là demande bien plus, enfin, en termes de coût, représente bien plus que pour un maillot classique. Est-ce que vous avez déjà une idée à peu près de combien ça pourrait coûter ?
Ouais, donc la matière première, en effet, elle coûte deux fois plus cher que la matière dérivée du pétrole. Après, nous, on démarre, donc on n'est pas comme des boîtes qui, si elles souhaiteraient basculer sur tout recyclé ou tout écologique, ça leur coûterait des millions pour basculer. Nous, on démarre avec ça. Donc, c'est un point qu'on a pris en considération lorsqu'on a fait nos calculs de prix, etc. Et l'objectif, c'est de vendre ces maillots au même prix que des marques qui ont pignon sur rue aujourd'hui. Donc, ça va être aux alentours du maillot manche courte, ça va être autour des 80€ et le maillot manche longue autour des 90€. Donc, c'est vraiment ce qu'on trouve sur des maillots premium, des maillots de qualité, c'est ce qu'on retrouve sur le marché. On veut que les personnes qui ont vraiment une fibre écologique, mais on veut pas vendre nos maillots de 100€ parce que ça fait pas de sens. On n'en vend pas, on n'aura aucun impact. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir de l'impact. Quitte à avoir une marge moins importante, c'est pas ça qui compte aujourd'hui. C'est vraiment développer la marque et se faire connaître et pouvoir continuer à grossir et à continuer à élargir la gamme, quoi.
Justement, en termes d'élargissement de gamme, alors c'est peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais avec cette matière-là, justement, ça veut dire qu'on peut faire quoi d'autre ? Vous pensez à quoi d'autre, là, pour l'instant ?
On pourrait faire toute la gamme du cycliste. Donc, ça va être... il y aura des ajustements après, mais il y aura le bip short. Alors après, il y a une partie chamois dans le bip short qui sera pas en PET recyclé, mais on est en train de discuter avec le fournisseur principal en Europe pour avoir une matière alternative recyclée. Ce sera pas du PET recyclé, mais on va essayer de pousser le truc le plus loin possible. Et après, ça va être le maillot d'hiver, le maillot de pluie, etc. Donc, on va pouvoir élargir au maximum avec cette matière-là, qui est le PET recyclé.
Et alors, justement, si on veut suivre le projet et déjà se préparer à, pourquoi pas, commander un maillot, comment on fait ?
Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux. Donc, on a des comptes sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Et on poste très régulièrement. Donc aujourd'hui, en fait, on poste quasiment tous les jours des informations sur notre projet et tout ce qui va toucher à notre projet, sur l'écologie, sur la circularité, etc. L'objectif, c'est d'ici les 2-3 prochaines semaines, c'est vraiment créer une communauté forte qui va nous suivre. Et après, d'ici début mai, on aura plus d'infos sur le produit, d'infos sur le crowdfunding, etc. Donc ça va vraiment aller crescendo. Donc ouais, on est prêt. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux que je viens d'évoquer.
Avec un début des préventes, on le rappelle, au mois de juin prochain. On revient d'ici quelques minutes avec la chronique Service Civique, mais avant, on écoute Bahamas avec Don't Did Me No Good.
Shape I'm in, laugh about the shape I'm in, don't do me no good, it don't do me no good, it don't a sleight of hand. Fool me with a sleight of hand. It don't do me no good. It don't do me no good. It done did me no good. Done did me no good to see it all coming. I turn it over, but the engine ain't running. And if you think I got it all figured out, it's just another way to hide my doubt. And doubt done did me no good.
Dans l'agité du local avec Done Did Me No Good. Cette fois-ci, c'est bon. Et ce mercredi, la chronique service civique est signée L'Autre Radio avec Claire et Emma qui ont rencontré Morgane Menotti et Morgane Solou-Paris, deux volontaires engagés au Théâtre de Laval. À 2 mois de la fin de leur contrat, elles font le bilan de leur mission et de ce qui a changé entre les débuts en octobre et maintenant.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Faire un bilan avant, après, c'est ce que nous avons proposé aux deux volontaires en service civique au Théâtre de Laval, Morgane Menotti et Morgane Solou-Paris. Rencontrés en octobre dernier au tout début de leur mission, nous les avons à nouveau interrogés il y a quelques jours, 2 mois avant la fin de leur contrat. Les deux volontaires avaient été engagés pour des missions de médiation, mais avec le contexte sanitaire et la fermeture du théâtre, leur rôle a forcément évolué.
C'était un petit peu compliqué. Enfin, le premier mois était vraiment super car on avait encore les jauges réduites et donc les spectacles avaient lieu au mois d'octobre. Et au mois de novembre, malheureusement, confinement et ça a été un peu brutal. Mais on a un petit peu su adapter et surtout aujourd'hui, à force d'apprendre, on a développé de nouvelles choses avec le pôle médiation qui peuvent se faire compatibles avec la situation sanitaire, donc en extérieur. Et donc forcément on développe un peu plus l'activité du théâtre.
Du coup l'essentiel des projets qui sont maintenus c'est plutôt ceux qui sont avec les publics scolaires, donc plutôt le public de Morgane, le jeune public, donc en primaire surtout, parce que moi évidemment en collège, lycée et public spécifique c'était des projets plutôt courts qui étaient autour des spectacles, donc ça servait à rien de les faire si les élèves pouvaient pas voir le spectacle. Et puis les publics qu'on appelle spécifiques, c'est par exemple des projets avec la maison d'arrêt ou l'hôpital, donc là ils acceptent plus les intervenants extérieurs. Mais sinon, en fait, on s'est réinventé, quoi, même autour des projets. On n'a jamais fait, du coup, de visite physique au théâtre avec des groupes, mais on a créé un jeu autour de ça. On a essayé de faire de la médiation sans pouvoir le faire vraiment, sans les lieux, sans le spectacle. Et puis,
le gros point positif que je retiens, c'est aussi vraiment qu'on a dû être force de proposition et d'adaptation. Et honnêtement, moi, c'est ce qui m'a fait le plus apprendre. C'est comme ça que j'ai vraiment évolué tout au long de la mission. Parce que, ben, au final, rien n'était jamais acquis, rien n'était jamais sûr. Et donc, on était vraiment à fond parce qu'on se disait, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il ne faut pas que notre service civique il soit foutu, il soit gâché. Donc, pour s'adapter un petit peu, on a été un peu déployés sur d'autres missions qui étaient sur des projets de communication. Donc, alimenter les réseaux sociaux, suivre vraiment les artistes qui viennent en Mayenne, enfin qui viennent au Théâtre de Laval principalement. Donc, on a un petit peu pu diversifier nos actions, mais honnêtement, ça s'est fait en fait... naturellement, ça ne nous a pas du tout été imposé. C'est un peu nous qui avons pris le devant et été force de proposition et voulu le faire.
S'adapter, le maître mot de leur mission depuis le début. Mais qu'attendaient les deux Morganes de leur expérience en service civique ? Retour 6 mois en arrière.
J'espère gagner en expérience et puis pouvoir prétendre à un emploi, que ça va m'ouvrir des portes, peut-être rester dans le coin, je sais pas, on verra bien.
Moi j'aimerais bien un petit peu aller toucher à d'autres corps de métier parce que du coup je voudrais reprendre mes études par la suite et vraiment que ça m'aide à y voir plus clair, à trouver peut-être une nouvelle voie dans le théâtre toujours parce que c'est ce que j'aime, mais par exemple toucher plus à la régie ou à la production, donc voilà.
Et la réponse aujourd'hui des principales intéressées.
Ça m'a aidée dans le sens où avant je me voyais pas du tout prétendre à un poste, postuler pour un vrai poste dans une structure. Honnêtement, maintenant, je me sens vraiment prête et j'ai eu, je pense, toutes les compétences pour le faire et j'ai pris confiance en moi dans ce domaine. Après, ça m'a aussi permis, honnêtement, moi, de... Ça a confirmé le fait que la médiation, c'est pas forcément fait pour moi, mais pour autant, justement, ça m'a permis de découvrir d'autres choses et de savoir que je ne vais pas continuer forcément dans cette voie, mais par contre que je vais continuer, je pense, auprès des structures culturelles parce que c'est ce que j'aime.
Moi, je savais déjà que je voulais bosser en médiation. J'avais déjà fait des stages dans des salles rémoises, du coup. C'était un truc qui me plaisait pas mal. Et puis c'est clair qu'entre la théorie et la pratique, il y a un pas, quoi. Parce que quand on est assis sur les bancs de la fac à écouter comment faire ces choses-là, où parfois on a des matières qui n'ont rien à voir, et le faire vraiment, c'est complètement différent.
Les deux volontaires conseillent sans hésiter le service civique, mais recommandent de bien choisir sa structure. Reportage de l'autre radio en Mayenne, réalisé avec Claire Garoust et Emma Knockart, volontaires en service civique.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Et cette chronique, comme les autres d'ailleurs, vous pouvez la réécouter sur notre site l'autreradio.fr. C'est l'heure de notre rubrique initiative présentée par Claire. Claire, on ne peut pas aller en concert, alors ce sont les concerts qui viennent à nous.
Et oui, on en avait déjà parlé dans les initiatives, la scène de musique actuelle 6x4 lance les sessions essentielles. Le principe, un artiste se produit dans un lieu culturel emblématique de la région, le tout filmé et diffusé sur Internet. On a déjà eu la chance d'entendre Madeleine Lenoir au Théâtre de Mayenne, AM Love's Poems et Alice à Omanas, et dernière vidéo en date, Johan au Bain-Douche de Laval. Tous les concerts sont à retrouver sur leur compte Facebook et Twitter, 6x4, et aussi sur leur site internet, que je vous conseille de regarder car il y a des très belles photographies des lieux et des artistes.
Donc ça, ce sont des concerts déjà enregistrés, mais demain, tu nous proposes un concert en direct.
Et oui, faute de pouvoir le faire avec le public en vrai, le guitariste et compositeur mélinois Patricio Cadena Pérez vous propose une représentation via Zoom. Le concert s'intitule Nostalgias et présentera des mélodies d'hier que l'on aime encore aujourd'hui. Un album sera aussi proposé en téléchargement. La participation est libre et c'est demain, samedi 17 avril à 21h. Le lien est à retrouver sur le site internet de l'artiste patriciocadenaperez.com.
Merci beaucoup Claire. Alors j'avoue que moi j'aurais prononcé Nostalgias parce que son nom est un peu à consonance espagnole, mais je ne sais pas. Je vous laisse
encore
l'accent.
Désolée.
Je vous laisse encore une fois profiter du concert demain et réellement découvrir si je me trompe complètement ou si vraiment ça s'appelle bien ainsi. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces initiatives. Si vous en avez d'autres à nous partager, on le rappelle, n'hésitez pas à vous laisser. À nous laisser un message sur notre répondeur au 09 70 40 59 40 et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter avec donc le nom du compte tout simplement c'est l'autre radio, on n'a pas été chercher très très loin. Merci beaucoup en tout cas Claire pour cette émission puisque c'est déjà la fin de la JT du local. Merci, bon week-end.
Et oui, c'est passé vite. Merci Marie, merci tout le monde et on se retrouve lundi.
On se retrouve lundi, évidemment, mais vos émissions préférées, elles, se poursuivent sur l'autre radio. À 20h, il y aura Passe-moi le thème. Et le thème ce soir, c'est la baston. Attention, attention. Et donc nous, comme Claire l'a si bien dit, on se retrouve lundi à 12h15. Comme d'habitude, je vous souhaite un très bon week-end.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est la JT du local.